autorité contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au jour, au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois lire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Pour que vous connaissiez, vous aussi, ma situation et que vous sachiez ce que je fais, Tychique, notre cher frère, qui est un serviteur fidèle dans la communion avec Christ, vous mettra au courant de tout ce qui m'en concerne. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et vous encourage aussi. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Alors, c'est une belle lettre. On arrive vraiment à la fin. Et on s'aperçoit que le chrétien d'Éphèse, il est plongé dans un combat. Et ça prend forme vraiment à la fin. Parce qu'au final, déjà dès le chapitre 4, depuis la moitié un petit peu du chapitre, on voit bien que le chrétien, il est amené à se repentir et qu'il a un effort à faire. Donc on est plongé, qu'on le veuille ou pas, dans un combat. Et Paul donne des instructions, des outils, pour bien s'équiper, pour bien qu'on soit conscient de l'intérêt et de l'enjeu qui est pour mener ce combat. Alors, une petite image, c'est d'envoyer des militaires dans un pays étranger. Mais ces militaires, pour mener ce combat, pour mener leur mission, l'objectif qu'on leur donne, donné par des généraux, il faut qu'ils s'équipent. Vous imaginez qu'il arrive avec son petit costume et voilà, il arrive et puis voilà, pour mener sa mission, avec des ennemis en face, il est un petit peu tout seul ou pas du tout équipé, il ne sait pas où il va, il n'a pas de carte, il n'a pas d'armes. Comment voulez-vous qu'il agisse et qu'il soit victorieux? Alors, le chrétien d'Éphèse, cette lettre aux Éphésiens, lui aussi doit s'organiser parce que la révélation, c'est aussi de voir que l'extérieur, on va être amené à recevoir des coups et qu'il va falloir surmonter ces coups, ces difficultés, pour sortir victorieux. Il va falloir se protéger, il va falloir, on l'a dit tout à l'heure, tenir ferme. Contre des attaques, contre des ruses, contre un ennemi. Alors, c'est un sacré programme parce que dans la deuxième partie la deuxième partie de la lettre à partir du chapitre 4, il y a déjà un combat intérieur, se débarrasser de son ancienne vie, adopter une nouvelle attitude, celle qui ressemble à Christ. Se revêtir de Christ, donc dire la vérité, pas le mensonge, arrêter de voler, mais plutôt travailler pour être généreux, avoir pas forcément des mauvaises paroles, mais être rempli, avoir des paroles empreintes de bonté. Il y a aussi dans nos relations, on avait vu qu'entre relations mari et femme, enfants et parents, entre maître et esclave, donc plutôt patron et des salariés à notre époque, il y a déjà un effort à faire. Et il y a aussi l'extérieur. Et dans cette lettre, on s'aperçoit qu'il y a un monde céleste et qu'il y a une partie de ce monde céleste qui est contre nous. Et je continuerai la lettre avec les quelques mots de la fin des salutations de Paul et ses derniers mots. Pour préciser ce combat, il faut préciser cet enjeu. Alors, on pourrait croire qu'il n'y a que ce qui est visible qui est réel, qu'il y a uniquement des êtres vivants qui peuplent la Terre. Mais il y a aussi un monde céleste. Et le combat n'est pas forcément contre des gens dans la rue, des êtres de chair et de sang, comme dit Paul. Mais aussi, il y a un monde céleste et des esprits mauvais qui s'opposent littéralement au plan rédempteur de Dieu. Donc, il faut en avoir bien conscience. Quelquefois, quand on parle du diable et quand on voit à l'extérieur les gens, comme ils en parlent, qui se déguisent comme des diables, moi, ça me fait toujours un petit peu frémir parce qu'ils n'ont pas conscience de la réalité qu'il y a derrière. Et il faut vraiment en être conscient pour mener à bien ce combat. Alors, est-ce qu'il y a une issue par rapport à ce combat? Est-ce qu'il y a des solutions pour vaincre l'ennemi? Parce que ce combat est forcément inévitable. Et pour ce qui concerne l'issue du combat, c'est plutôt une victoire ou c'est plutôt une défaite? Est-ce que nous sommes amenés finalement à perdre ou c'est plutôt amené à gagner? Alors, la réponse, elle n'est pas en nous, elle est en Jésus, par son œuvre de la croix, par la preuve de la résurrection. Alors je lis dans Éphésiens, nous l'avons lu les semaines passées, c'est que le Père a tout soumis à Jésus. Et je lis au chapitre 1, verset 20, « Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté. » Donc l'issue de ce combat, elle est acquise et la victoire réside en Jésus. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me rassure un petit peu de savoir que finalement, le Père a tout remis au Fils et Jésus, sur cette croix, par la preuve de la résurrection, a tout vaincu. Donc, qu'est-ce qu'on puisse voir, toute domination sont sous les pieds de Jésus. Donc c'est vraiment une réalité spirituelle sur laquelle nous devons nous accrocher et qui nous donne aussi une espérance. Alors, est-ce que ça a un impact pour nous? Donc, Paul écrit un petit peu plus loin, dans le chapitre 2, verset 6. Il, alors c'est le Christ, nous a ressuscité et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc voilà le glorieux combat de Dieu pour nous, c'est qu'il a vaincu complètement les puissances mauvaises, les mauvais esprits, Satan, et nous donne cette assurance, cet appui, c'est que nous aussi, nous aurons ce futur d'être assis dans les lieux célestes avec ce Christ qui est au-dessus de toute domination, toute souveraineté. Voilà l'espérance de l'Église, voilà l'espérance du message de l'Évangile. Alors maintenant, je voulais insister un petit peu, regarder un petit peu avec vous les détails des équipements. Je ne vous cache pas qu'il y a une certaine difficulté peut-être pour nous parce que l'ennemi n'est pas forcément visible, c'est pas forcément une personne, c'est un petit peu plus complexe que ça et nous ne le voyons pas forcément avec nos yeux. Mais ici, Paul va nous donner des moyens, des outils ou des armes, puisqu'il parle de combattants, pour nous assurer la victoire, en tout cas pour que nous puissions tenir ferme. Alors, la solution, elle est dans cette union avec Christ. Elle est en Christ, elle n'est pas en nous. Et nous sommes amenés, comme dans les précédentes exhortations, à nous revêtir de Christ. Donc ici, c'est une armure. Et cette armure, c'est réellement la puissance de Dieu. Ce n'est pas simplement une pensée abstraite, une théorie, mais c'est vraiment la puissance de Dieu. Et Paul s'appuie sur cette croix où la résurrection, ça a été réellement une puissance pour vaincre l'ennemi. Alors les armes, il en donne 5 ou 6, j'ai pas bien compté. 6. Premièrement, il y a la ceinture qui est le symbole de la vérité. Alors cette vérité, c'est la vérité de l'évangile, c'est vraiment la description de l'évangile. C'est cette puissance de vérité et ça permet d'éclaircir le chemin. Et donc nous devons vraiment nous appuyer sur cette vérité. C'est vraiment la vérité. Les paroles de Dieu, c'est la vérité. Et on a pu voir aussi et constater que cette vérité, il faut la maintenir dans nos relations avec les autres. C'est éviter le mensonge, mais c'est aussi dire la vérité. Et ça, c'est une puissance de Dieu. Il y a la cuirasse de la justice, de la droiture, suivant les traductions. Alors, ça fait référence dans le livre d'Ésaïe. Donc, en lisant le chapitre 52 et le verset 17, alors, cette justice, dans ce contexte d'Ésaïe, c'est plutôt Dieu qui juge les mauvaises actions du peuple. Donc, le peuple a mal agi, et Dieu revêt cette cuirasse de jugement, de justice, parce qu'ils ont mal agi, et va les juger. Alors, je ne pense pas qu'il faille voir ici exactement la même chose, mais c'est que nous devons, nous, agir de façon juste. Nous sommes appelés à agir de façon juste. Souvent, la justice va avec la sainteté. Parce que, être saint, c'est être conforme à la loi. Et la justice, c'est faire le droit. Et donc, c'est d'être conforme au droit. Et nous devons être justes, même si nous ne sommes pas exactement. Mais nous sommes appelés à mener une vie juste, donc envers la sainteté de Dieu, mais aussi envers les autres, à respecter la conscience et notre prochain. Et il y a cette notion d'être équitable avec les autres, à ne pas, par exemple, faire de favoritisme par rapport à certaines personnes. Alors, le bouclier de la foi, c'est placer sa confiance en Dieu, en tout. C'est pas forcément un exercice facile, mais nous pouvons placer sa confiance et aussi chercher un refuge en lui, parce qu'on n'est pas toujours, on n'a pas toujours la solution, on n'a pas toujours face quelquefois à l'adversaire par rapport à certaines paroles, l'exercice d'avoir la solution à la parole. Mais nous sommes invités à placer notre foi, ce qu'on ne comprend pas toujours, nous devons avancer malgré cela. Et le psaume 91, verset 4, en plaçant refuge en lui, en fait, on y trouve la fidélité de Dieu. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Donc il y a un peu la réciproque. C'est-à-dire que quand on fait confiance à Dieu, lui, il est fidèle et il nous protège. Alors, il y a les chaussures du zèle de l'Évangile. Alors, l'Évangile, c'est quelque chose qu'on est obligé de... On ne peut pas avoir une vie qui ne soit pas en accord avec l'Évangile. C'est quelque chose où il faut être plongé dedans. Ce n'est pas quelque chose cacher en vivant, avoir un discours de l'Évangile et puis vivre autrement. Ça se révèle de toute manière. C'est pour ça qu'il faut tenir compte de cet amour. Et est-ce que dans notre cœur, est-ce qu'on manifeste ce zèle? Est-ce qu'on a cette ardeur de parler de la parole? Est-ce qu'on a cette disponibilité aussi pour le service? Est-ce que nous sommes finalement centrés pour les intérêts du royaume? Et est-ce que cette flamme, finalement, coule dans notre cœur? Alors, le casque du salut. Alors, je trouvais que cette arme, le casque, va bien avec le salut. Parce que le casque a cette particularité, c'est de protéger la tête quand on... Alors, je pense que vous n'êtes pas l'habitude d'aller en guerre ou faire des combats. Mais le casque, c'est ça fait partie de l'armure. Mais c'est vrai que si vous avez plus de tête, c'est un peu fini. Donc la tête, c'est vraiment ce qu'il faut qui reste délivré. Vous pouvez perdre un bras, vous pouvez perdre une jambe, vous pouvez encore survivre, mais si vous perdez la tête, vous avez plus grand chose. Il reste plus grand chose. Je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. Et le casque est associé au salut. Et le salut, c'est vraiment, nous avons cette espérance d'être sauvés. Donc quoi qu'il arrive, nous sommes sauvés si nous plaçons notre confiance. Donc je trouvais que cette association d'armes était vraiment allait bien avec le salut. Donc ce salut, c'est faut y voir l'espérance de savoir que nous sommes sauvés en Christ. Et enfin, il y a l'épée de l'esprit, cette parole de Dieu. Et finalement, vivre de l'évangile, c'est aussi connaître la parole de Dieu. Et c'est surtout que ça nous permet de tenir ferme contre tout ce qui sont des faux discours, des faux raisonnements que nous pouvons entendre, que nous pouvons échanger avec l'extérieur. Et justement, par rapport aux faux discours, qui ne vont pas dans le sens de Dieu, qui sont rebelles à Dieu, nous avons cette parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer et qui nous permet aussi de discerner les raisonnements. Alors, ayant développé un petit peu les armures du combattant, Paul va inscrire un autre élément qui est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il ne va pas le mettre dans un objet d'armure, il va nommer la prière. Mais parce qu'elle a une fonction un petit peu peut-être différente ou de fréquence différente. Mais elle demeure quand même une caractéristique et une puissance de l'évangile. Et même Paul, dans sa lettre, tout au long de sa lettre, il prie pour ses Éphésiens. C'est pour lui pas une option, c'est pas facultatif la prière. Au contraire, c'est nécessaire. Et il prie pour ses Éphésiens. Et il demande lui-même qu'on prie pour lui. Donc sa prière est vraiment efficace et essentielle par rapport à l'Évangile. Et pour parler de la parole de Dieu, parler de l'Évangile avec assurance et aussi avec discernement, Paul en appelle à la prière. Alors, c'est à consommer sans modération. Paul dit qu'il faut le faire en tout temps, avec une entière persévérance, et ne pas hésiter à inclure tous les membres de l'Église, et même au-delà, d'autres Églises. Donc, tout de suite, le sujet devient vaste. Alors, Paul a plusieurs formes de prière, il donne plusieurs exemples. Au début de sa lettre, il est vraiment reconnaissant envers Dieu pour le bon témoignage de foi et d'amour qu'il a entendu par rapport aux Éphésiens. Donc c'est vraiment la prière de reconnaissance. Et puis aussi, il prie pour une deuxième forme, c'est il prie pour que cette Église soit ancrée profondément en Christ, et c'est tout l'objet de la lettre, pour que ces chrétiens d'Éphèse grandissent, croître en maturité dans l'Évangile en Christ. Il part aussi de requêtes. Donc les requêtes, c'est pour quand on a des besoins particuliers. Et par rapport aussi à la prière, ce que j'aimerais rajouter, c'est mettre aussi en correspondance la prière de notre Père, qui est finalement, quand on prie, ce qu'on veut, c'est que le royaume de Dieu vienne, ce royaume de Dieu qui est dans le ciel, vienne sur la terre et dans nos vies. Et quand on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est vraiment prier, c'est faire venir le trône de Dieu sur la terre. Alors, Paul conclut cette lettre. Donc je vais donner quelques commentaires sur les mots de la fin. Et donc, Paul finit sa lettre, mais il ne veut pas en rester là. il a donné des exhortations qui sont destinées aux églises d'Éphèse, à l'église d'Éphèse, mais aussi aux églises de la région, en Asie. Et Paul veut continuer ce combat. C'est pas terminé. Moi, c'est ce qui m'a plu dans c'est qu'il montre l'exemple de ce combat. Il veut garder contact avec ses Éphésiens. Alors, il n'a pas WhatsApp, il n'a pas la messagerie, il n'a pas de téléphone portable. Il est en prison. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le tableau. Hein. Il est enchaîné à Rome. Et il écrit à ses Éphésiens et il arrive à trouver des solutions pour garder contact avec eux. Donc, sa solution, c'est d'envoyer quelqu'un. Donc, c'est Tychic. Pour déjà continuer à les encourager et en même temps donner de ses nouvelles. Donc vraiment, moi, c'est ce qui m'a touché dans cette fin de lettre. Alors, cette lettre est belle. Maintenant, c'est quel est l'impact, qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, Église de Paris-Cardinet, dans nos vies, par rapport à ce que Paul a dit aux Éphésiens. Alors, avant de parler de nous, je voulais parler encore de ces Éphésiens, mais cette fois-ci, en se plaçant dans les actes, de ce qu'on apprend dans les actes, quand Paul, au cours de ses voyages missionnaires, est venu, pendant presque 3 ans, enseigner, encourager, exhorter ces Éphésiens. Alors, il y a eu vraiment un bouleversement dans cette ville. Il y a eu une repentance qui a été visible, qui a été publique, puisqu'on apprend que les Éphésiens ont brûlé des livres de magie. Donc, les chrétiens qui sont convertis sont allés dans la rue et brûlé des livres. Il y a eu aussi des guérisons miraculeuses. Il y a des chrétiens qui ont connu la plénitude de l'esprit. Donc, ces Éphésiens ont vu vraiment la puissance de Dieu agir dans cette ville et sur les chrétiens. Ça ne s'arrête pas là. On peut constater aussi qu'il y a eu aussi des attaques de l'ennemi. Il y a des vendeurs, des artisans qui travaillaient pour faire des mini-temples pour les temples d'Artémis, qui devaient faire des objets, des idoles pour la déesse Artémis, et qui ont cherché à nuire ces chrétiens et ce que Paul et ses compagnons avaient pu faire, apporter. Donc, au lieu de se réjouir de la bonne nouvelle, de ce plan merveilleux pour Dieu, ça a fait place à une agressivité, une violence dans le but de les détruire. Et donc, Paul, c'est cette armure des chrétiens, ça parle vraiment bien à ces Éphésiens, puisqu'ils ont pu voir les deux, ce glorieux plan de Dieu dans leur vie, et en même temps, l'ennemi qui a tenté de les détruire. Et donc, ça leur parle bien, je pense, pour eux, de savoir qu'il y a aussi un ennemi qui veut les détruire et qu'ils ont à tenir ferme. Alors, et nous, en tant que chrétiens, est-ce que c'est un petit peu la même chose? Est-ce que ou nous sommes appelés à avoir d'autres combats? Est-ce que vous vivez des oppositions? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans ce même combat que les Éphésiens? Est-ce que vous avez vu l'ennemi? Est-ce que vous avez vécu des mauvais jours? L'Église de Christ, ça c'était au début pour les Éphésiens, mais nous vivons ces temps, nous vivons des temps difficiles, nous avons cette lutte et nous avons aussi à revêtir, cette armure. Alors, il suffit de regarder un petit peu dans le monde. Certains vivent des combats terribles. Je veux penser à mes frères et sœurs qui sont par exemple en Inde, on avait vu une vidéo dans un dimanche précédent, qui sont persécutés, qui peuvent perdre un membre de leur famille à cause de la foi, qui peuvent vivre des situations sociales difficiles, réduites, parce qu'ils sont chrétiens. Je pense notamment en Inde, j'avais vu un reportage sur des Indiens qui, parce qu'ils étaient chrétiens, il faisait des métiers un petit peu dégradants, c'est-à-dire le ménage, mais il ne pouvait pas pouvoir penser accéder à un métier qui gagne peut-être plus ou qui soit meilleur pour eux. Alors, on ne vit pas tous forcément ces réalités, mais l'opposition peut se traduire par des façons moins directes, peut-être plus subtiles, mais toujours dans ce but de nous détruire et de nous détourner de la foi. Par exemple, avec les liens familiaux, quand certains ne sont pas chrétiens et d'autres pas, quelquefois les relations sont un petit peu tendues, ça peut devenir un petit peu agressif, c'est pas toujours facile à vivre. Je peux penser aussi dans nos relations de travail ou dans nos amis. Les discussions, quand on parle de l'évangile, ça peut être aussi un petit peu tendu. Et pourtant, Paul prie pour avoir de l'assurance et parler avec discernement. Alors, il y a quelque chose de peut-être plus personnel, peut-être plus individuel aussi, c'est dans nos occupations quotidiennes. Il y a le travail, mais il y a aussi les loisirs, dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous regardons, tout ce que nous lisons. Est-ce que le zèle de cet évangile est là? Est-ce que tout ce que je fais est dans le plan de Dieu ou cherche en tout cas à se centrer sur ce Jésus? Voilà, donc c'est un point de réflexion aussi pour nous. Là où je suis un petit peu vulnérable, là où je laisse un petit peu la porte à autre chose que le Seigneur. Et lorsque je traverse certaines difficultés, est-ce que je me tourne vers lui? Est-ce que je lui demande son aide pour surmonter ces difficultés? Parce que dans ce combat, c'est toute la... nous sommes appelés vraiment à progresser dans sa connaissance et à saisir vraiment ses armes. Est-ce que je prie? Est-ce que j'y mets de la persévérance et de la constance? Est-ce que j'ai dans ce regard, est-ce que je pense à mes frères qui sont dans les difficultés? Est-ce que je prie pour eux? Est-ce que je pense à parler des fois dans certains sujets de la parole de Dieu, de cet évangile? Est-ce que je manifeste cette flamme de cet évangile? Alors j'arrive à la conclusion. Est-ce que dans un futur ou à la fin de ma vie, est-ce que je pourrais dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat? C'est ça en fait l'objectif. C'est ça la foi. C'est ça cet évangile. Et dans cette lettre, Paul veut encourager les Éphésiens et effectivement toutes les églises en final. Et nous aider, nous aussi, à comprendre et à utiliser cette puissance de l'évangile. Alors, c'est pas sur ma force que je peux compter. Le centre, c'est Christ. C'est lui ressembler. C'est s'appuyer sur lui. C'est lui le véritable modèle. Parce que c'est en lui que réside la victoire. Alors, je voulais, pour conclure, lire un passage dans Éphésiens. C'est finalement, la clé, c'est en le connaissant profondément, en étant uni à lui, en ayant une parfaite communion avec lui. Alors, c'est jamais parfait, hein, mais c'est quelque chose qui doit croître et gagner en maturité. Que l'Église, elle peut saisir et vivre ce plan merveilleux et glorieux de Dieu sans être découragée ou même ébranlée par les attaques du mal. Alors voilà ce qu'écrit Paul. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui? Voilà. J'ai fini. Je te laisse la place, Jonathan.